Ils m'ont fait des propositions, mais c'est toujours l'amélioration dans la misère ou la misère qui vous améliore.
Vous allez écouter des archives FPP.
106.3 FPP.
Programmes, reportages, interviews. Des 1992 à nos jours, plus de 20 ans de témoignages de la voix des sans-voix.
Alors vous êtes sonné ou quoi ?
Radio FPP, 106.3 FM.
Il y a encore.
Il y a des limites à ne pas dépasser.
La voix des sans-voix.
Je trouve votre intervention de très mauvais goût.
www.rfpp.net.
Ça vous amuse de choquer les honnêtes gens ?
Bonne écoute.
Vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Les auteurs de la Sociologie de Paris étaient intervenus dans l'émission « Les périphériques vous parlent » le 29 juillet 2005.
Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour la deuxième heure de l'émission des périphériques vous parle et de Génération Chaos. Durant le 19e siècle, l'immigration qui fit grossir Paris fut d'origine provinciale. Le Limousin, la Bretagne, l'Auvergne contribuèrent à la formation de la population de Paris. On attribuait volontiers à ces provinciaux l'insécurité d'alors, comme plus tard avec les immigrés en provenance des pays pauvres. Les derniers arrivés semblent toujours avoir été les moins bien acceptés, jusqu'à ce qu'une nouvelle immigration prenne la relève. Ces apports massifs de provinciaux ont modelé Paris et lui ont donné son visage contemporain. Ils furent au principe de communautés qui marquèrent certains quartiers. Les Bretons vers la gare Montparnasse, les Auvergnats dans le faubourg Saint-Antoine, faisait vivre les provinces françaises au cœur de la capitale, et il en reste encore des traces vivantes. En 1886, Paris était donc la plus grande ville de province. Seuls 36% des Parisiens y étaient nés, contre 56% dans le reste du département de la Seine et en province, et 8% à l'étranger. En 1999, les Parisiens de souche sont encore moins nombreux. 31% seulement sont nés dans la capitale et 14,5% dans le reste de l'Île-de-France. Un tiers, 32%, sont nés en province, mais surtout, 23% sont nés à l'étranger. L'histoire des provinciaux à Paris permet de mettre en perspective les difficultés actuelles de l'intégration pour les immigrants les plus récents. Au début du 19e siècle, la cohabitation entre Parisiens et Auvergnats ou Bretons n'allait pas de soi. Et le temps paraît avoir été nécessaire au travail d'assimilation de migrants qui furent stigmatisés. Le journal des débats parlait à leur propos d'invasion des barbares. Haussmann fait allusion à une tourbe de nomades et Thiers parle d'une multitude de vagabonds. Ce rejet alla jusqu'à s'appuyer sur une théorisation raciste opposant les vainqueurs, les descendants des Francs, aux Gaulois vaincus, dégénérés, les premiers étant représentés par les Parisiens de souche et le second par les sauvages immigrés provinciaux. Plus tard, les Français de souche seront les dignes successeurs des natifs de Paris. Dans les années 30, au plus fort de l'immigration bretonne à Paris, un défilé communautaire parcourait chaque année les rues de Montparnasse. Il marquait à la fois une volonté d'intégration des exilés bretons et leur fierté identitaire, quelque peu mise à mal par le personnage de Bécassine, bonne à tout faire, dont l'image n'était guère flatteuse. Aujourd'hui, il n'y a plus de défilé breton. Mais depuis plusieurs années, la communauté chinoise du 13e arrondissement parcourt les rues de Chinatown à l'occasion du Nouvel An asiatique. Une volonté d'intégration entérinée par les autorités françaises qui ont accordé en 2004, à l'occasion de l'année de la Chine en France, l'autorisation de défiler sur les Champs-Élysées. Les Chinois ne sont pas les seuls immigrés à investir ainsi les rues parisiennes. La communauté tamoule, originaire du Sri Lanka, organise depuis quelques années, en septembre, un défilé en l'honneur de la fête de Ganesh, divinité du panthéon hindou à la tête d'éléphant. Les chars fleuris, tirés par des hommes vêtus d'un simple pagne, pieds et torse nus, parcourent les rues des 10e et 18e arrondissements, entre les voies de gare du Nord et de l'Est, au milieu des débris de noix de coco brisées qui jonchent le sol, entre les saris chatoyants des femmes et les objectifs des appareils de photos de Parisiens éberlués. Les organisateurs de ces processions ont la volonté de manifester l'existence de la communauté d'une manière recevable par les Parisiens en leur donnant l'aspect d'une fête ouverte à tous. Les défilés de provinciaux ont été abandonnés, leur utilité diminuant avec leur intégration. On peut se demander ce qu'il en sera des festivités asiatiques qui émanent de communautés culturellement plus éloignées. Dès le début du 19e siècle, enfin du 20e siècle, excusez-moi, d'autres compagnons de misère, originaires de pays européens, rejoignent les migrants des provinces françaises. D'abord des Belges et des Polonais, puis des Italiens et des Espagnols. Après la Première Guerre mondiale, des travailleurs en provenance de pays colonisés d'Afrique ou d'Asie vinrent renflouer un mouvement d'immigration qui commençait à faiblir, d'autant que le conflit l'avait stoppé net et que les hommes jeunes des campagnes avaient été décimés. Toutefois, l'immigration européenne connut alors de beaux jours, avec celle des Portugais, puis les migrants devinrent à majorité africaine, arrivant du Maghreb et ensuite d'Afrique noire. Les conflits qui ravagèrent leur pays provoquèrent l'afflux d'immigrés du sud-est asiatique et de Kurdes, ou encore de Tamouls. L'Europe revient aujourd'hui en force avec l'arrivée de ressortissants des pays de l'Est. Paris n'a jamais ainsi cessé d'accueillir les vagues de migration suscitées par la misère et les drames du monde. Des boutiques et des supermarchés chinois du 13e arrondissement à l'animation des rues africaines de la Goutte d'Or, la diversité est immense. À Paris, on passe d'un continent à l'autre par la présence des travailleurs immigrés, la variété des restaurants, la diffusion des musiques du monde entier. Comme le firent les provinces autrefois, c'est aujourd'hui la planète qui enrichit Paris d'apports innombrables. Près de 200 nationalités y sont recensées. Le multiculturalisme est déjà un fait. En 1999, les arrondissements où le taux d'étrangers était supérieur à la moyenne pouvaient se répartir en trois groupes. De façon attendue, les arrondissements populaires du Nord-Est, 18e, 19e et 20e arrondissements. Les arrondissements du centre et de l'Est, 2e, 3e, 10e et 11e, et paradoxalement, deux des arrondissements les plus chics, le 8e et le 16e. La multidiversité culturelle à Paris n'est pas affaire d'une rupture entre la pauvreté et la richesse, mais est relativement homogène dans la plupart des arrondissements. Malgré des disparités entre les arrondissements, tous présentent des taux d'étrangers supérieurs ou pratiquement égaux au taux moyen de l'Île-de-France et nettement supérieurs au taux moyen pour la France. Le taux assez élevé d'étrangers dans les 8e et 16e arrondissements correspond à une composition spécifique de cette population. On y trouve 20,5% de cadres et professions intellectuelles supérieures, cette catégorie ne représentant que 9,8% des actifs étrangers dans le 18e. Les personnels des services directs aux particuliers représentent 33,9% des actifs étrangers dans le 8e et 20,6% dans le 18e. En outre, la composition des étrangers par nationalité n'est pas la même. Dans le 8e arrondissement, les ressortissants de l'Union européenne représentent 57,4% de la population totale étrangère et 19% dans le 18e. Dans le 8e arrondissement, un peu plus de 50% des actifs espagnols et portugais sont au service des particuliers, gardiens d'immeubles, femmes de ménage, et 35% des Marocains. Mais ces taux passent à 23%, 36,4% et 24,7% dans le 18e. La prise en compte simultanée de l'activité professionnelle et de la nationalité met en évidence le caractère spécifique de la population étrangère des beaux quartiers. La répartition spatiale des étrangers revêt souvent un aspect communautaire marqué. C'était un extrait du livre de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, tiré donc de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte, intitulé « La sociologie de Paris ». Et c'est sur ces phrases que nous allons reprendre notre entretien avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, entretien enregistré il y a quelques jours dans un café parisien.
Reparti. Hein. Donc, un autre grand point de caractéristique de Paris, c'est depuis, notamment depuis plusieurs siècles, vous me corrigerez encore là si je me trompe, hein, parce que à partir de quand Paris devient une grande ville cosmopolite, une ville peuplée d'apatrides, hein, à partir de quand justement s'opère ce grand brassage des cultures. Vous relevez dans votre ouvrage qu'aujourd'hui on peut dénombrer jusqu'à à peu près 200 nationalités à Paris. Donc c'est une ville qui est caractéristique d'un métissage, d'une multiculturalité effective, réelle, hein, qui n'est pas très récente, hein, qui est très très ancienne. Même, vous soulignez le fait que par rapport à ce métissage culturel, il n'y a pas simplement le brassage des nationalités, il y a aussi le fait que Paris, notamment au XIXe siècle, avec les exodes ruraux vers la ville, a été un brassage absolument phénoménal des diverses composantes régionales de la France. Donc il y a aussi cette dimension culturelle qu'il ne faut pas simplement borner au rapport entre différentes nationalités, entre différentes cultures, mais aussi au niveau même des régions françaises. Et alors, comment en même temps se concilie, se négocie la poursuite de ce métissage, de ce brassage énorme, notamment par rapport à l'apport des populations immigrées, qui bizarrement aussi sont dans des situations de fragilisation sociale et de vulnérabilité économique très forte. Et comment se concilie à la fois la poursuite de cette multiculturalité, de cette dimension multiculturelle de la ville, et en même temps cet embourgeoisement, ou en tout cas cette gentrification, qui semblerait représenter une menace rédhibitoire justement pour ce métissage-là?
Alors tout d'abord, l'attraction de Paris. Et effectivement, pendant tout le XIXe siècle, ça n'était pas des étrangers qui débarquaient à Paris, mais comme Gervaise et Lantier, des provinciaux, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Auvergnats. Et quand on lit, il y a des passages, je n'ai pas le livre sous les yeux là pour lire des extraits, mais quand on lit les historiens du XIXe, on trouve des phrases absolument extraordinaires sur les Auvergnats, qui sont vraiment les étrangers de l'époque, qui sèment l'insécurité dans la ville, qui sont sales et qui font peur. Et aujourd'hui, c'est un discours qu'on peut retrouver à propos des Maghrébins de la Goutte d'Or ou des Chinois ou des Tamouls du 10e arrondissement. Donc, une fois les provinciaux intégrés, ce sont les Européens qui arrivent. C'est-à-dire que c'est une immigration qui est relativement proche. C'est les Italiens, les Espagnols, les Portugais, puis les Polonais. Et puis chaque fois, au fur et à mesure qu'on avance dans le XXe siècle, Paris attire des contrées de plus en plus lointaines. Et aujourd'hui, les gens arrivent de tous les coins du monde. Vous avez dit 200 nationalités. Il y a 300 000 étrangers à Paris sur 1,3 million pour toute la France. Donc c'est beaucoup. C'est en tout cas beaucoup plus que ce que représente la
population. Quand vous dites 300 000 étrangers, 300 000 étrangers, le chiffre de gens qui sont de descendance qui descendent de populations étrangères est plus faramineux.
Oui, parce que bien entendu, il y a d'abord toutes les nationalisations, tous ceux qui se sont fait, nationalisation, le lapsus est intéressant, naturalisés, et qui sont effectivement très très nombreux, si bien que même les chiffres d'étrangers ne correspondent pas à l'ambiance de la rue, par exemple quand on prend une ligne de métro comme la ligne 13, on se dit mais Paris vraiment d'un cosmopolitisme absolument étonnant. Puis en plus vous avez parlé d'étrangers et à Paris on peut parler d'étrangers et d'immigrés, c'est-à-dire que l'arrondissement où il y a le taux d'étrangers le plus important, c'est le 8e. Dans le 16e aussi c'est des taux très importants, mais là bien entendu il s'agit d'étrangers de haut niveau social. Ce sont des diplomates, des ambassadeurs, des cadres internationaux. Et on emploie un autre mot dès lors qu'il s'agit de populations pauvres, immigrées. Et donc voilà, alors c'est vrai que le paradoxe d'un Paris qui s'embourgeoise, mais où se maintient encore aujourd'hui des noyaux ethniques assez visibles, hein, je pense au quartier chinois dans le 13e arrondissement, je pense au quartier tamoul entre la gare de l'Est et la gare du Nord. À quoi je peux penser, au quartier maghrébin de la Goutte d'Or, au quartier d'Afrique noire de Château-Rouge. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, au fond, de quartiers avec des commerces ethniques très visibles, très marqués, mais qui sont pas pour autant des ghettos. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de circulation, de relations avec les autres quartiers. Et alors cet équilibre, cette présence immigrés et certainement menacés par le marché immobilier actuel. Mais c'est très très important pour ces communautés parce que ça leur permet, quand par exemple un Algérien arrive d'Algérie, il arrive à la Goutte d'Or, d'emblée il va bénéficier des réseaux familiaux, de son village. Enfin, c'est vraiment une façon très très importante de pouvoir entamer un processus d'intégration dans notre pays.
Oui, sans relativiser outre mesure les problèmes que peuvent rencontrer les étrangers immigrés dans leur insertion dans Paris et dans la société française en général, je voudrais quand même donner deux ou trois remarques du 19e siècle sur les provinciaux à Paris. À propos des provinciaux qui venaient s'installer à Paris, le Journal des Débats, qui était un journal très sérieux du genre Le Monde aujourd'hui, parlait d'invasion de barbares. Haussmann parlait d'une tourbe de nomades. Et Thiers, Adolphe, président du Conseil, parlait de multitudes de vagabonds. Donc il y avait des manières de désigner, c'était une autre époque, mais il y avait une manière de désigner les Auvergnats et les Bretons avec des termes qui seraient irrecevables aujourd'hui à propos des immigrés étrangers, venant d'Afrique ou d'ailleurs. Il y avait une si vous voulez, ce qui est important, c'est de voir que quand même, il y a une difficulté à admettre les derniers arrivants. Les derniers arrivants sont toujours ceux qui ont, pour les gens, sont les boucs émissaires, enfin, et on leur fait porter la responsabilité de ce qui ne va pas. Bon, donc ça, c'est déjà une chose. Puis ce que je voulais dire aussi sur Paris, c'est que il y a à peu près 15% d'étrangers dans Paris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est énorme, énorme par rapport au reste de la France. Il y a 12% d'étrangers en Île-de-France. Donc, il y a moins d'étrangers en banlieue que dans Paris. Or, on se représente les étrangers, les immigrés, comme étant surtout nombreux.
Les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas naturalisés français.
Hein. Voilà, oui, oui. Et on se représente les immigrés comme étant particulièrement nombreux en banlieue. Il y a 15% à Paris et 12% dans l'Île-de-France. Et en même temps, en France entière, il y a 5,6% d'étrangers. Donc on voit qu'il y a trois fois plus d'étrangers à Paris que dans l'ensemble de la France. Proportionnellement. Donc c'est quand même un chiffre qui montre que Paris est une ville cosmopolite, et cosmopolite, je crois qu'on peut le prendre dans un sens très positif, parce que, par exemple, nous sommes ici au quartier latin, et il y a une jeunesse internationale au quartier latin qui est une richesse profonde de Paris. De même, d'ailleurs, que ces quartiers dont Monique parlait tout à l'heure, ces quartiers qui sont des centres commerciaux à échelle régionale, voire nationale, que l'on trouve à la Goutte d'Or, à Château-Rouge ou dans le quartier Tamoul, et qui drainent toute une population et donnent une vie très diverse dans Paris.
Samedi soir dans ma mémoire de banlieusard, l'appel de la forêt, la jungle est belle et elle nous plaît. On va lui pincer les fesses de Belleville à Barbès, transpirer des gouttes d'or jusqu'aux abysses. C'est samedi soir dans ma mémoire, sur l'autoroute y avait pas de radar. La voiture on l'avait volée mais on la rendrait au matin, juste parce que c'était celle de notre voisin. Je suis pas né à Paris, j'y ai même pas grandi. Exilé de grande banlieue, le bout de ligne des cheveux. Que la capitale étend quand elle se couche, pour que tous ses enfants d'aucune souche viennent l'embrasser sur la bouche. Alors c'est Paris s'en va. C'est avec à chaque fois un petit bout de moi. Le petit carré blanc vient se poser lourdement. Le petit carré blanc avec les gens dedans. Rafale de fenêtres pour murer ce qui a pu être. Je n'ai plus 20 ans et la ville en a 1000. Elle ne tiendra plus longtemps sous ce bombardement. Les petits carrés blancs jettent le présent dans le souvenir. Ils ne sont que les fausses dents d'une ville qui fait semblant de sourire. Mais tout est comme ça, à chacun de nos pas, Paris se dévore. Ce qui renaît n'existe pas pour nous. Enfants de n'importe où, de toute la France ou de Tombouctou. Ce dimanche matin dans ma mémoire, c'est le soleil qui se lève sur mon histoire. Le petit carré blanc, le petit carré blanc, le petit carré blanc. Les petits carrés blancs, les petits carrés blancs, avec les gens dedans. Allez! Oh
D'ailleurs, on évoquait souvent dans l'histoire récente de Paris, le fait déjà que c'est la première destination touristique du monde, je crois. D'autres villes très visitées, comme Rome, notamment, on souffre dans leur structure même, dans leur tissu social même, de cette pétrification, en quelque sorte, de la ville par le tourisme, puisqu'il y a une côté monumentalisation de la ville, pétrification de certaines villes italiennes très visitées, qui n'ont quand même pas tant que moi qui vais souvent en Italie. Ce qu'il n'y a pas à Venise, bizarrement, puisque Venise est une ville excessivement envahie et visitée, tout ça, mais Venise conserve une tissu sociologique très, très vivace, très complexe, très, très indépendant, finalement. Il n'y a pas une aliénation par le tourisme. Et c'est vrai qu'à Paris, on constate aussi que. On constate ce qu'il n'y a pas cette aliénation par le tourisme, même s'il y a des millions et des millions de touristes qui viennent chaque année. Donc. Parce que certains arguaient le fait qu'il ne fallait pas faire de Paris une ville-musée. Bon, alors ça, c'est vraiment un débat. Moi, je n'ai pas le sentiment que ça puisse devenir, à quelque moment que ce soit, une ville-musée. Quel est votre sentiment par rapport à ça?
Vous êtes bien péremptoire en disant cela, parce que les statistiques ne vont pas tout à fait dans votre sens. Si Paris continue à se dépeupler, si Paris continue à s'embourgeoiser, c'est vrai qu'on s'oriente vers la muséification de cette capitale. Mais les statistiques sont à la fois menaçantes et en même temps rassurantes, parce que le dépeuplement, qui était quand même très vif entre 1954 et 1990, se ralentit entre 1990, un recensement, et 1999, le dernier recensement. Si vous voulez, ce qu'il y a d'important dans ce que je dis, c'est qu'au fond, il y a toujours une population parisienne importante qui continue à inscrire sa vie dans cette capitale, et c'est précisément un rempart très important contre la muséification. Hein. Alors, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'aussi le nombre d'emplois diminue. Alors ça, c'est aussi inquiétant, puisque moins il y aura de gens qui viendront travailler à Paris ou qui y travailleront, plus la ville se désertifiera et deviendra une ville-musée. Et il faut prendre très à cœur ce problème. Moi, je crois que c'est un vrai problème. Avec Michel, on a fait tout un travail qui a donné lieu à une publication sur la transformation des quartiers bourgeois de l'Ouest parisien en quartiers d'affaires, avec une enquête monographique très approfondie sur le 8e arrondissement et qui montre comment le 8e arrondissement, ben, la nuit, écoutez, c'est la forêt de Fontainebleau. C'est-à-dire que c'est totalement désert. Nous avons interviewé des personnes âgées qui étaient les dernières à résider dans leur immeuble, dont tous les logements ont été transformés en bureaux. Parce que, évidemment, les logements grands bourgeois, qui sont grands, qui ont des belles adresses, attirent la convoitise des sièges sociaux des grandes entreprises industrielles et bancaires et des commerces de luxe. De telle sorte que, et je m'arrêterai là, l'avenue Montaigne, qui était une avenue, comme disent les familles auprès desquelles on enquête, une avenue élégante, bien habitée, familiale, avec des petits commerces, des boulangeries, des épiceries et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des grands couturiers et il n'y a plus que peut-être une dizaine de familles qui résident encore avenue Montaigne. Donc, même dans les beaux quartiers, on voit que c'est très difficile de faire face, de contrecarrer les forces du libéralisme triomphant qui ronge la ville.
Peut-être vous voulez rajouter quelque chose ?
Simplement que la muséification n'est envisageable que si, d'une part, la population qui réside diminue sensiblement et si, d'autre part, les activités disparaissent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une période où, en fait, la densité des emplois et de l'habitat était telle dans Paris que ça ne pouvait que baisser. Cette baisse étant maintenant très contenue, l'idée d'une muséification de Paris me paraît être beaucoup moins évidente qu'il y a une dizaine d'années.
Est-ce qu'on pourrait, selon vous, dire qu'il y a une stratégie consciente, délibérée, par exemple, d'allouer de plus en plus de surface au privé, finalement, au privatif, au désavantage, justement, du peuple parisien. Est-ce qu'il y a une stratégie délibérée, justement, de refouler à la périphérie de plus en plus de gens pour renom, justement, de cette puissance économique parisienne, justement, justifier en disant bon, écoutez, il y a la banlieue, vous pouvez aller en banlieue. D'ailleurs, beaucoup de gens aussi s'expatrient de même par rapport maintenant à des problèmes de qualité de vie vont habiter en banlieue. Je prétends que l'air serait.
En fait, ils font de nécessité vertu.
Voilà. Vous pensez qu'il y a une stratégie consciente ou alors est-ce que c'est quelque chose, ce phénomène est quelque chose qui échappe totalement, qui se dérobe totalement, par exemple, à la politique communale de la ville, parce que la politique communale peut délibérer justement sur l'augmentation de logements affectés, des logements sociaux par exemple. Mais est-ce que vous pensez que ce phénomène de libéralisation est quelque chose sur lequel les politiques publiques n'ont pas prise ? Ou alors est-ce qu'il y a collusion, connivence et,
C'est-à-dire que si on veut raisonner comme vous en termes d'une théorie du complot, je dirais que le grand responsable, c'est le libéralisme triomphant comme jamais au début de ce millénaire. Mais bon, abandonnons la stratégie du complot. Mais en effet, tout se passe comme si on ne pouvait pas faire grand-chose face à un système qui était, dans les décennies précédentes, où il y avait quand même un certain poids de l'État, un certain poids des politiques publiques en matière de logement social, dans de très très nombreux domaines, qui est aujourd'hui très très menacée, notamment avec le gouvernement actuel. Chaque jour, il y a une nouvelle information, une nouvelle menace contre ce qui était aux mains d'un État providence, c'est très important parce que ça protège les plus faibles. Alors, par exemple, je donne un exemple précis. Il y avait la loi de 48. La loi de 48, c'était ce qu'on appelle le logement social de fait. C'est-à-dire que la loi de 48 protégeait les plus modestes en interdisant aux propriétaires d'augmenter les loyers d'une façon déraisonnable. Enfin, c'était contrôlé, disons, par l'État. Voilà un exemple de ce qui est balayé et qui est très très grave parce que le logement social de fait représentait énormément de logements pour loger les catégories modestes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tellement imaginer les conséquences que ça va avoir que le dépérissement de cette loi de 1948.
Dans votre ouvrage, vous abordez justement cette notion, on y vient, je crois, de mixité sociale, justement. Donc, c'est une notion pour vous qui va pas de soi, hein. Vous dites ça va pas de soi, et notamment qui se traduit aussi en matière de politique de logement social par le fait, par exemple, vous dites, bon, traditionnellement, on a développé des logements sociaux dans des arrondissements comme le 20e, des arrondissements populaires, 13e arrondissement, mais vous évoquez aussi des tentatives récentes, je crois en 2000-2001, de développer des logements sociaux, notamment dans le 8e arrondissement, on en trouve aussi dans le 8e ou dans des quartiers où finalement des gens assez fortunés se sont retrouvés avec un voisinage tout à fait étonnant. Donc est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de cette notion de mixité sociale et des problèmes que ça pose?
Oui, les tentatives actuelles de la municipalité pour implanter des logements sociaux dans l'ouest parisien, dans les quartiers chics, c'est une tentative nécessairement limitée parce qu'il y a peu d'opportunités immobilières qui se présentent, parce que d'autre part, le coût est très élevé. Mais enfin, par la préemption, il y a eu un certain nombre d'immeubles qui ont été transformés en logements sociaux dans des coins tout à fait improbables, dans le 7e arrondissement, rue Jean Nicot, avenue Mozart, avenue de Messine, des coins extrêmement chics. Alors, quel est le sens de cette activité, de cette action? Elle n'est pas de transformer les quartiers bourgeois en quartiers mixtes avec beaucoup, parce que quantitativement c'est limité. Mais l'objectif est de fixer une population modeste qui habite ces quartiers dans des conditions souvent difficiles, de fixer cette population dans les mêmes quartiers, c'est-à-dire dans le 8e, le 16e, le 7e. De manière à rendre irréversible la présence d'une certaine population modeste qui souvent travaille d'ailleurs pour des gens qui habitent le quartier, dans le personnel de service. Et de cette manière-là, en les logeant sur place, dans du logement social, on est sûr qu'ils ne vont pas être évincés des logements modestes qu'ils occupent actuellement, mais qui risquent d'être récupérés à terme parce que la pression immobilière est très forte.
Oui. Tu pensais aux chambres de bonne voilà, qui autrefois logeaient le personnel de service et qui sont aujourd'hui transformées en studio ou petits appartements charmants pour de jeunes couples.
Vous évoquez aussi le fait qu'effectivement, on a aussi le nombre, par exemple, au niveau de l'analyse sociologique que vous faites, on a une augmentation des cadres répartis dans l'ensemble des arrondissements, une diminution très forte depuis des décennies de la population ouvrière. Mais vous dites aussi que même aujourd'hui, pour les cadres ou les couches moyennes, les classes moyennes, Paris est devenu une forme de... Habitat Paris est un privilège. Que même aujourd'hui, les classes moyennes n'ont pas la possibilité d'habiter à Paris systématiquement.
Oui, il faut savoir que sur la région Île-de-France, il n'y a que 30% de cadres moyens et supérieurs qui habitent Paris. C'est-à-dire que la majorité des cadres habitent la banlieue. Attends, je me rappelle
ce que je voulais dire. Et donc, arriver à freiner cet exode des classes moyennes à revenus modestes, on peut penser aux enseignants par exemple, aux gens personnel de la fonction publique qui ont des salaires relativement modestes, en tout cas à un certain niveau. La nouvelle municipalité développe une politique de création de logements sociaux, les PLI, programmes à loyer intermédiaire, qui permettent de loger, par exemple, des instituteurs. Or, un instituteur aujourd'hui, une famille d'instituteurs, institutrices, par exemple, les deux travaillent, il y a deux enfants, ils ne vont pas trouver à se loger correctement dans Paris. C'est impossible. Les prix sont tels qu'ils ne pourront pas, s'ils n'ont pas accès à un logement aidé par l'État.
Et bizarrement, maintenant, on assiste à un exode à l'envers, puisque beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ne pouvant pas habiter à Paris, ne désirant pas habiter en banlieue, finalement, c'est... Il y a un exode vers d'autres grandes villes françaises. Donc on se retrouve dans une situation complètement inversée par rapport à ce qui était la spécificité parisienne du 19e siècle, de convergence quasi systématique des populations rurales ou des populations d'autres villes. On disait monter à Paris, c'était le destin de qui voulait en quelque sorte, chez les artistes, tout le monde monter à Paris.
Oui, c'est vrai que les mouvements vont un petit peu dans tous les sens. Beaucoup de je n'ai pas le chiffre en tête, mais enfin de nombreux Parisiens quittent effectivement, ou de banlieusards, quittent la région parisienne pour s'installer dans des grandes villes de province. Mais beaucoup de ces résidents qui changent de région, en fait, continuent à bosser sur Paris. Parce qu'avec les systèmes de télétravail, de fax, de mail, d'ordinateur, enfin maintenant, on peut travailler à Tours, habiter à Tours et travailler sur Paris, surtout dans ces emplois de création, de communication. Donc les choses, on peut rester fixé sur Paris tout en habitant la province. Puis il y a aussi eu la révolution avec les TGV. Bon, tout ça, ça bouscule complètement les statistiques habituelles. Mais c'est vrai que c'est très très important de fixer ces classes moyennes à Paris, parce que sinon on va se retrouver un petit peu comme dans les grandes villes américaines, avec au fond les deux extrémités de la société seulement dans cette capitale, hein, les familles les plus riches qui sont toutes assujetties à l'ISF et qui payent d'assez gros impôts à cet impôt de solidarité sur la fortune, et puis des très, très pauvres. Par exemple, je donne juste deux chiffres. Dans l'ouest de Paris, la moyenne de ce que payent les assujetties à cet impôt de solidarité sur la fortune, c'est une moyenne, et elle date de l'an 2000. C'est quand même 20 000 euros. C'est pas rien, hein, c'est presque 130-140 000 francs. Et puis, à côté de ça, à Paris, un ménage sur 8 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, les statisticiennes de l'INSEE le définissent aujourd'hui en 2004 à moins de 670 euros par ménage. Un ménage sur 20 touche le RMI. Et il y a 10 000 qui n'ont plus rien du tout. Des clochards, des sans-domicile fixe. C'est 20% quand même des sans-domicile fixe français qui ont choisi, enfin en tout cas, dorment sur les trottoirs parisiens.
J'aimerais vous poser peut-être une dernière question par rapport au futur proche de Paris, si jamais c'est la fameuse question des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de réfléchir aux enjeux en termes de nos reconfigurations sociologiques que générerait l'organisation de ces Jeux. Je ne sais pas, c'est une question, je m'hazarde un petit peu. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à... On sait ce que ça a produit, par exemple, à Pékin. Hein, tout le vieux Pékin rasé, des populations expropriées, de force, etc. etc. Est-ce que... il s'agit là d'un scénario totalement... on ne peut pas évoquer pour Paris, puisque bien évidemment les enjeux sont autres, mais qu'est-ce que ça pourrait justement produire, parce qu'on évoque justement, Paris a besoin apparemment, ne sans pas se développer, aurait besoin presque d'une overdose supplémentaire de développement que les JO autoriseraient.
Nous on est sociologues, on n'est pas prophètes, hein, mais on peut faire des hypothèses. Hein. Alors, si on observe ce qui se passe dès lors qu'il y a des grands travaux dans Paris, dès lors que, par exemple, on construit un opéra à la Bastille, on voit très bien que cette implantation d'une salle de musique aussi prestigieuse contribue la déprolétarisation de la Bastille et donc de manière concomitante à son embourgeoisement. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'on est en droit de faire l'hypothèse que ces grands travaux, qui vont se situer beaucoup dans les quartiers périphériques de la capitale, risquent d'accentuer, d'aggraver encore plus le processus d'embourgeoisement. Mais peut-être faut-il regarder de plus près. Peut-être que les politiques, j'espère, sûrement les politiques, ont pensé aussi à ça. C'est le paradoxe. Les Verts de Paris, ils veulent absolument qu'on crée des quartiers tranquilles, qu'on mette de la verdure. Très bien, tout le monde est d'accord avec ça. Simplement, dès que vous foutez un arbre quelque part, le prix du mètre carré augmente de 400 ou 500 euros.
Vous dites que justement, c'est ça aussi qui participe de la gentrification. C'est-à-dire, ce n'est pas une augmentation directe, mais c'est une augmentation qui est justifiée par le fait qu'on rénove des quartiers qui étaient insalubres. Et donc forcément, ça a un coût qui retentit sur le prix du loyer. Quoi.
Oui, mais... Bon, sur cette histoire de Jeux Olympiques, il y a une opération qui risque d'être très intéressante. C'est celle qui va avoir lieu du côté des Batignolles. Dans le 17e arrondissement, à cheval sur les anciennes fortifications, sur Paris et aussi un peu sur la banlieue, création du village olympique. C'est, je pense, l'une des tentatives que la municipalité, si cela se fait, aura le plus... Avec cette tentative, la municipalité aura le plus de possibilités de gommer un peu, au moins sur ce point-là, où la rupture entre Paris et la banlieue est très forte, de gommer un peu cette rupture dans l'espace urbain. C'est une des possibilités. Les coûts de ce type de réaménagement des frontières entre Paris et la banlieue sont énormes à cause de la présence du périphérique et d'équipements lourds qui sont très difficiles à gérer, à déplacer, etc. Avec ce village olympique au Batignolles, ce serait une possibilité de faire une vaste coupure dans la ceinture qui enserre Paris aujourd'hui.
Je crois qu'on va... On va terminer là. Je vous remercie beaucoup à vous pour vos interventions. Donc, et puis à très bientôt.
Merci.
Voilà.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission des Périphériques vous parle et de Génération Chaos. Vous venez donc d'entendre un entretien avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot sur la sociologie de Paris, qui est d'ailleurs le titre de l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte, sociologie de Paris. Ne quittez pas l'antenne, soyez toujours à l'écoute.
Bienvenue dans ce monde ivre, au milieu des rondes de nuit, sa race qui me suivra la trace, repéra parmi cent, quand la musique de mes semblables s'entasse dans la boîte à gants, quelques rayures sur mon fer ne l'empêcheront pas de rouler, toi qui n'as rien trouvé de plus intelligent à faire. Bienvenue dans ce monde ivre, là où il va falloir me suivre, en stress j'en conviens, ici les feux de détresse ne sont jamais éteints, étonnamment serein malgré le cheminement des douilles et des embrouilles d'un autre degré, 25 claques sur jantes rutilantes, cousin, je ne jugerai pas ce que tu claques et où tu le planques pour remonter la pente sans les moindres pépins. Paris aussi me nourrit de ce qui brille et ma femme, moi et ma famille avec ce que je crame, à brûler des toxines parfois en bitumen, puis recracher la nicotine des pots d'échappement.
Bienvenue dans ce monde ivre, respire et fais ton testament. Dis à cette connasse de vie, vas-y on reste amant. Devant la faux du squelette, y'a plus de place pour les désistements et les fossoyeurs creusent constamment. Paris pollué, avec du pu dans les artères, j'ai vu son putain de cancer évoluer dans ses poches trouées, Durex et Subutex. Texte. Cherche pas à trouver d'où vient la saleté du texte, inspiré du contexte qui pue l'hostilité, la criminalité. Bienvenue dans ce monde ivre, Paris nous gave et nous prive sur chacune de ses rives. Soit tu restes une épave, soit tu vis sur le qui-vive. Sais-tu à quoi on se livre pour essayer de survivre, jusqu'au signal qu'en résonnent les tambours et les cuivres. Puisqu'ici dans la zone tous les jours ça arrive, et malgré tout nos chromosomes récidivent.
Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les neurones peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre. Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Si tes neurones peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre.
Si Paris nous nourrit jusqu'à la gueule, je ne suis pas le seul. Les bouches pleines se retiennent ou bien des gueules. Et à l'accueil, les serpillères se dévoilent faibles en quête de quoi rassasier leur soif du bout des lèvres. Paris crève, Paris affame aussi. Paris rejette les affamés de la nuit. Remontrant ce musclé, remettre les échymoses droites. Les palaves sont retaillées, les genoux se déboîtent. Woody Mark, un gain vit en retour. On charcle les côtes, une cicatrice fait le tour. Tout le monde court et peu de perspectives. Une clé de bras est bienvenue dans ce monde ivre.
De ce côté-ci, Paris regorge de cash pleine. Sale comme cet énorme égout qu'on appelle la Seine. Faire son trou en se palpant le pouls. Sous les jupons de laine de cette putain mondaine. Sans même lui bouffer la couenne. Que du bon engrais pour ma graine de schizophrène. Paris me pousse sous le crâne, Paname nous affame. Nous épluche des poches à l'os, des couilles à l'âme. Dans l'urine lurée et le chômage de longue durée. Ces rejets de fumée, n'oublie jamais de parfumer. Les vies au rabais à dégager vers ses couronnes. En 3, 4, 5e, 6e zone. C'est comme ça qu'elle traite son arthrose et ses névroses. Qu'elle paye son potum, son crack, son valium. Paris me colle au cul, me coule au cœur comme un cholestérol fumeur. Et pourtant j'en ai pincé à ces rares heures où cette salope fut comme une sœur.
Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités neurones peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre. Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités neurones peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre.
L'invention des départements rend sensible la force des enracinements provinciaux. Affirmation croissante de la campagne au regard de la ville, aujourd'hui des régions sous l'égide de l'Europe. Afin de se consolider sans rencontrer trop de résistance, il faut multiplier les gages de bonne foi auprès des régions, garantir protection et promotion des richesses locales. Pour Jean-Jacques Rousseau, quelques décennies avant la Révolution, la ville et la campagne sont autre chose qu'une simple expression contrastée. Il voit dans le développement des villes la déchirure du tissu rural et la rupture de l'équilibre économique. Il n'y a pas d'échange circulaire entre la ville et la campagne, mais un état de violence imposé à la campagne où se découvre sa soumission à une logique étrangère et destructrice. L'armée et l'administration se chargent de la force et de la ruse, cependant que la monnaie disloque les fondations naturelles de la vie agraire. Outre la division administrative, l'industrialisation viendra consolider le régionalisme croissant de la table des lois. Relais de diffusion des savoirs locaux à Paris, les groupes régionalistes s'afflublent de noms folkloriques. En 1872 apparaissent les Lyonnais de Paris. En 1884, le clafoutis. En 1890, les bourguignons salés. Puis la ruche limousine, le barbichet, la prune, la veillée d'Auvergne, les ganormands, les bretons de Paris, les amis du Loir-et-Cher. Les sociétés gastronomiques se rassemblent autour de tables, évidemment jonchées de spécialités locales. Cela montre, s'il en était besoin, que l'espace urbain désigne le carrefour stratégique de transmission d'une culture locale à l'échelle nationale. La ville, a fortiori la capitale, rassemble les bains, les biens et les potentiels du territoire. Elle en assure l'acquisition, la promotion, le succès et la renommée. De son côté, le félibrige tient les traditions culinaires pour des signes forts de l'identité des régions. Pour preuve, la revue fondée par Frédéric Mistral avec Roumanie et Aubanel, qui deviendra le porte-voix du militantisme occitan, est baptisée l'Aïoli en hommage à la cuisine provençale. Au regard d'une tutelle administrative amnésique, encline au plus grand mépris les traditions, le moindre signe d'un état plus originaire constitue un témoignage digne d'être préservé et scrupuleusement restitué. Loin de l'infamie ou de la déchéance, l'archaïsme rappelle la valeur inestimable d'une histoire essentielle à l'intelligence du présent. Au début du XXe siècle, Kurnomsky, critique de renom, définit l'Île-de-France comme le centre intellectuel, économique et administratif de la France centralisée. Avec l'Orléanais et la Champagne, elle forme, selon lui, le noyau de l'unité nationale et monarchique française. Conscient de l'importance de la centralisation dans le succès de la gastronomie française, il n'en fustige pas moins un État coupable d'occulter les racines et les coutumes locales. Instrument d'appropriation et de négation des particularismes, Paris phagocyte à l'envi les richesses agricoles et culinaires de la nation entière. Depuis Rousseau, il est vrai, toute une tradition s'est rendue sensible au cannibalisme urbain et critique à son égard. Ainsi, bientôt, il n'y aura plus d'État. Paris sera le royaume, chaque province a sa capitale qui dépeuple ses campagnes. Comment Paris ? Capitale sans terroir ? Centre gastronomique du monde est-il parvenu à se hisser au sommet de la hiérarchie culinaire ? En témoigne cet extrait de Paris à table, où selon Eugène Briffaut, quand Paris se met à table, la terre entière s'émeut. Pour la France, le dîner de Paris est la grande affaire du pays. Sans production locale, à l'exception de rares denrées, Paris rassemble les meilleurs produits régionaux et étrangers. Mais tout se passe comme si ce divers, par une finalité irrésistible, tendait à l'unification. Comme si les élevages et les cultures de Savoie, du Lot et de Picardie, d'Alsace et du Nivernais n'existaient sur place qu'à titre de simple possible et n'accédaient à leur réalité que par la médiation de Paris. Sur quoi l'exception française repose-t-elle, sinon sur une puissance d'appropriation ? Au XIXe siècle, Grimaud de la Reynière soutient que Paris est incontestablement le lieu de l'univers où on fait la meilleure chair et le seul en possession de fournir d'excellents cuisiniers à toutes les nations policées du monde. Quoique Paris par lui-même ne produise rien, car il n'y croit pas un grain de blé, il n'y paraît pas un agneau, il ne s'y récolte pas un chou-fleur, c'est un centre où tout vient aboutir de tous les coins du globe, parce que c'est le lieu où on apprécie le mieux les qualités respectives de tout ce qui sert à la nourriture de l'homme et où on sait le mieux le faire tourner au profit de notre sensualité. La centralisation parisienne risque, en contrepartie, de faire voler en éclats l'adéquation d'une cuisine et d'un sol. En outre, la meilleure cuisine se devait d'éclore là où elle serait appréciée à sa juste valeur. Cependant, si les terroirs se fondent dans des prédispositions naturelles, les opérations de préparation et le jugement de goût dépendent, quant à eux, de normes apparemment culturelles. Établie en amont, la justification naturelle est en aval fragilisée par le caractère acquis du goût. Exposée à l'arbitraire des codes culinaires et des conventions du goût, la gastronomie pourrait être accusée de travestir la naturalité des terroirs. Au-delà d'une élection de la France pour ce qui est de la production de denrées de qualité, les dons naturels du cuisinier et du gastronome ont à leur tour besoin d'être reconnus. Escoffier s'en charge. Nous le citons. C'est tout naturellement que le français devient tout à la fois grand et bon cuisinier. Il n'y a plus qu'à s'entendre sur les aptitudes en matière de goût du gastronome gaulois. C'est chose faite grâce à Marcel Rouff, pour qui le goût de la gastronomie est inné dans la race. L'autorité de Paris s'est vue ici confirmée sans rien céder à quelques prérogatives politiques et administratives en contradiction avec le génie gastronomique. La richesse des terroirs, le don des cuisiniers et la sagacité du goût des Français sont conjointement à l'origine d'un rayonnement planétaire. Chargés de supplanter et de structurer une organisation sociale, les déterminations biologiques ne garantissent pas seulement l'hégémonie française, elles font office de justification absolue. Le génie de la nation s'accomplit dans une dévolution de la culture à la nature. À supposer une suprématie simplement culturelle, on pourrait objecter à la France le caractère exclusivement conventionnel, sinon artificiel, de son talent gastronomique. Perdu parmi tant d'autres, notre culture alimentaire ne pourrait régner en despote éclairé sur le reste du monde. Pour parer à l'objection, toutes les autres cultures sont renvoyées à des constructions sociales et historiques, cependant que la France tire de la nature une légitimation indiscutable. Dès lors qu'une ligne de démarcation est tracée entre la France et les autres nations, par le biais de propriétés biologiques innées, les traditions culinaires attiennent une position qui, dans l'esprit de ses partisans, les soustrait à toute controverse. Le goût inné dans la race, entre guillemets, commande une inégalité gastronomique entre les races, traçant ainsi une voie royale à la lignée française supérieure aux autres. Si l'origine des terroirs remonte à un don, comment se glorifier de ce qui existe en dehors de tout dessein humain ? Le déterminisme des conditions naturelles, fécondité des sols, réserves naturelles, génie culinaire, spontanéité du goût, ne laisse guère de place à une élaboration librement consentie et maîtrisée. Même le rôle du cuisinier s'avère secondaire et accessoire. Notre seul mérite serait en définitive de profiter de conditions exceptionnelles, d'être là où la nature donne le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire à Paris. Et la France, dans ce sens, abriterait à son insu le peuple élu de la bonne chair. Extrait des nourritures nostalgiques d'Olivier Assouli, essai sur le mythe du terroir. Et je crois que ce texte résonne fortement, notamment avec notre entretien précédent consacré à la sociologie de Paris.
No, I wasn't raised at gunpoint, and I've read too many books to distract me from the mirror when unhappy with my looks. And I ain't got proper diction for the makings of a thug, though I grew up in the ghetto, and my niggas also drugs. And though that may validate me for a spot on MTV, or get me all the airplay that my bank account would need, I was hoping to invest in a lesson that I learned, and I thought this fool would jump me just because it was my turn. I went to an open space cause I knew he wouldn't do it, if somebody there could see him, or somebody else might prove it. And maybe in your eyes, it may seem I got punked out, cause I walked a narrow path, and then went and changed my route. But that openness exposed me to a truth I couldn't find, in the clenched fists of my ego, or the confines of my mind, in the hipness of my swagger, or the swagger in my step, or the scowl of my grimace, or the meanness of my rep. Cause you represent a truth, son, that changes by the hour, and when you open to it, vulnerability is power. And in that shifting form, you'll find a truth that doesn't change. That truth's living proof of the fact that God is strange. Talk to strangers when family fails and friends lead you astray. When Buddha laughs and Jesus weeps and turns out God is gay. His angels and Messiah's love can come in many forms. In the hallways of your projects or the fat girl in your dorm. And when you finally take the time to see what they're about. And perhaps you find them lonely or their wisdom trips you out. Maybe you'll find the cycles end, you're back where you began. But come this time around, you'll have someone to hold your hand. Who prays for you, who's there for you, who sends you love and light. Exposes you to parts of you that you once tried to fight. And come this time around, you choose to walk a different path. You'll embrace what you turned away and cry at what you laughed. Cause that's the only way we're gonna make it through this storm. Where ignorance is common sense and senselessness the norm. And flags wave high above the truth and the two never touch. And stolen goods are overpriced and freedom costs too much. And no one seems to recognize the symbols come to life. The bitten apple on the screen and Jesus had a wife. And she was his messiah like that stranger maybe yours. Who holds a subtle knife that carves through worlds like magic doors. And that's what I've been looking for, the bridge from then to now. Was watching BET like what the fuck son, this is foul. But that square box don't represent the sphere that we live in. The earth is not a flat screen, I ain't trying to fit in. But this ain't for the underground, this here is for the sun. I see the street to be expanded on my tongue.
Ainsi se termine cette émission des Périphériques vous parle et de Génération Chaos. Cette émission sera rediffusée en deux parties lundi et mardi de 11h à midi. A bientôt.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of eight-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
In Rwanda, 800,000 Tutsi and Hutu tribes people have been annihilated.
New York City Mayor Rudolph Giuliani suffered another setback in his campaign for New York's vacant Senate.
Political and social disorder. Asahara, leader of a Japanese cult known as Onshin Rikyo, or Supreme Truth, was arrested for two nerve gas attacks on Tokyo subway stations, in which 19 were killed and thousands injured.
Patrick Dorsman, an off-duty security guard, was the third unarmed African-American man in 13 months to be killed by officers of the NYPD.
He lost the faith.
200,000 have fled Chechnya, unable to withstand the heavy bombardment unleashed by advancing Russian troops. 34 million people in the world are now HIV positive, with the overwhelming majority residing in Africa.
Mass confusion.
In Pittsburgh,
and so, the third celestial.